Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 15. Nous allons lire les 6 premiers versets. Dans le chapitre précédent, Abraham rencontre Melchisédek, et Melchisédek le bénit. Et puis nous lisons donc au chapitre 15 de Genèse, au verset 1. Voici la parole de Dieu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit : Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit : Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit : Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et c'est la parole de Dieu. L'événement le plus central, l'événement central de toute l'histoire de l'humanité, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans ce monde. Nos calendriers le soulignent. Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Dans quelques jours, nous serons en 2024. Et avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, on numérote les années de manière décroissante pour arriver à zéro lors de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et de cette façon, le monde souligne, parfois même involontairement, que toute l'histoire est centrée, que toute l'histoire prend son sens à partir de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Même si ailleurs, dans le monde, des civilisations comptent les années différemment, dans quelques jours, elles vont quand même célébrer le passage en l'an 2024. Et le fait que la naissance du Seigneur Jésus-Christ se trouve au centre de l'histoire vient combattre un malentendu majeur concernant l'œuvre de Dieu dans l'histoire. Quelques personnes vont dire que le Seigneur Jésus est né parce que Dieu a changé d'avis ou parce que son programme initial de salut a échoué. Et l'argument de ces personnes est le suivant. Ces personnes disent : Dieu a essayé d'apporter le salut par la loi, mais il a vu que cela ne fonctionnait pas et donc il a eu l'idée d'envoyer son Fils mourir pour nos péchés. Mais ce point de vue présente un Dieu imparfait. Un Dieu capable d'échec, capable de déraison, très loin de l'image de Dieu que nous présente la parole. Et ce point de vue manque aussi le point important concernant Noël, à savoir que toute l'histoire est centrée sur la venue de Jésus-Christ. C'est par la venue de son Fils dans ce monde que Dieu a toujours eu l'intention d'apporter le salut à la terre. Et le passage que nous voulons regarder ce matin présente l'une de ces promesses les plus anciennes, les plus importantes, qui parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ. La promesse que Dieu a faite au patriarche Abraham, qu'il aurait une descendance par laquelle le salut viendrait non seulement à lui, mais aussi au monde. Et le premier point à souligner, c'est le Fils d'Abraham. Comme vous le savez, Abraham est une figure importante de l'Ancien Testament. C'est par lui que Dieu a commencé cette œuvre de salut dans la nation d'Israël. Et dans un sens très important, les véritables chrétiens sont sauvés par la foi en Jésus-Christ à cause de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. C'est pour ça que le Nouveau Testament dit que ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Abraham est né environ 2000 ans avant le Seigneur Jésus-Christ. Il a été lui-même sauvé par la foi et par la grâce, et par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est né comme l'accomplissement de cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Comme vous le savez, je vais juste résumer, on fait la connaissance de ce personnage d'Abraham dans la Bible quand l'Éternel vient à lui en Ur de Chaldée, Irak moderne, et il l'appelle à voyager comme pèlerin vers le pays lointain de Canaan. Genèse 12, les premiers versets, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà l'appel qui a mis en marche l'histoire du peuple de Dieu. Abraham a été le premier d'une lignée de pèlerins qui s'étend jusqu'à nous, parce que nous aussi, nous sommes en chemin vers notre véritable patrie. Abraham a connu des épreuves, il a connu des triomphes en marchant avec Dieu. Et dans Genèse chapitre 15, ce passage que nous avons lu, Dieu revient à Abraham pour lui rappeler sa promesse de bénédiction, de protection. Après ces événements, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Cela devait rappeler à Abraham qui faisait face à de nombreux dangers que Dieu protège son peuple, il prend soin de son peuple. Abraham, comme nous, pouvait être sûr qu'en faisant confiance à l'Éternel, qu'en faisant confiance dans le Seigneur, en faisant sa volonté, il ne serait pas perdant, il ne serait pas détruit, il ne serait pas perdu dans ce lieu et dans ce moment où il était vulnérable. Mais c'est à ce moment-là qu'Abraham a soulevé une objection qui est fondée sur un doute, sur une demande de prière à laquelle Dieu n'avait pas encore répondu. Abraham répondit verset 2, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham nous ressemble beaucoup. Dieu venait de garantir son avenir. Il lui promettait la bénédiction, la récompense. Mais Abraham était insatisfait à cause d'un besoin légitime, mais d'un besoin non satisfait. Bien que chef d'une puissante maison, Abraham était sans enfant. Il n'avait pas de fils qui sautait sur ses genoux. Plus important encore, il n'avait pas de fils pour être héritier, pour porter son nom. Et nous lui ressemblons tellement. Si nous sommes chrétiens ce matin, Dieu a envoyé son fils pour mourir pour nos péchés, pour nous assurer un héritage éternel dans les cieux. Mais très souvent, on est loin d'être reconnaissant comme on devrait l'être. Et on va répondre, oui, tout ça c'est bien, mais qu'en est-il de ce travail que je n'aime pas? Qu'en est-il du conjoint pour lequel j'ai prié ou pour les enfants pour lesquels j'ai prié? Qu'en est-il de cette épreuve ou de cette difficulté à laquelle je suis confronté? Il n'y a probablement rien de plus préjudiciable à notre relation avec Dieu que notre esprit ingrat, plaintif devant la personne merveilleuse de Dieu, devant tout ce que Dieu a fait pour nous, pour nous assurer les bénédictions éternelles de gloire. Et c'était le cas avec Abraham. Le besoin qu'il ressentait, légitime, l'empêchait d'adorer Dieu avec gratitude et avec joie. Mais une des choses que l'on voit dans ce récit, c'est à quel point Dieu est bienveillant. Il est patient. Il est patient avec ses enfants qui se plaignent. Il compatit avec nos soucis, avec nos questions, avec nos problèmes. Dieu avait une réponse à Abraham. Verset 4, La parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Éliézer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Éliézer, un homme de la maison d'Abraham, ne serait pas l'héritier, parce qu'Abraham aurait son propre héritier. Et notre traduction souligne exactement ce que dit le texte au sens littéral. C'est lui qui sortira de tes entrailles, un descendant de sa propre chair, pas de sa maison, mais de sa propre chair, deviendra son héritier. Abraham était très vieux. Sa femme Sarah était non seulement stérile, mais elle avait passé l'âge de procréer. Mais Dieu, qui peut tout faire, a donné à Abraham un enfant par Sarah. Et c'est une image du salut par la grâce seule. Abraham est allé vers sa femme âgée et par la foi en la promesse de Dieu. Et là où la nature humaine était stérile, là où l'effort humain ne pouvait rien faire, comme un symbole de la grâce souveraine, Isaac est né pour être l'héritier d'Abraham. Mais même Isaac, né à Abraham de Sarah, n'était pas l'enfant dont Dieu parlait en Genèse 15. Selon le Nouveau Testament, Dieu se référait à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, dont la naissance d'Isaac n'était qu'une image, qu'un aperçu. Abraham voulait savoir qui serait son héritier, qui hériterait des promesses extrêmement grandes que Dieu lui avait données, des promesses d'une terre, d'une nation qui jaillirait de lui, d'un nom qui serait grand. Mais il ne pouvait pas voir comment tout pouvait arriver alors qu'il n'avait pas d'enfant. Et Dieu a répondu qu'il y aurait un descendant physique de lui dans lequel les promesses se réaliseraient. Et l'apôtre Paul nous dit que ce descendant est le Seigneur Jésus-Christ. En parlant du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 1, verset 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui. » Voici donc comment Genèse 15 nous parle au sujet de Noël. Le Seigneur Jésus-Christ est né comme l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham. Il est né pour être celui en qui toutes les promesses de Dieu seraient accomplies. Une terre promise, un peuple promis, une vie éternelle promise, la gloire promise. Et la naissance du Seigneur Jésus-Christ par Marie, qui était vierge, doit être comparée à la lumière de la naissance d'Isaac par Sarah, qui était stérile. La naissance d'Isaac parlait du salut par grâce et non par les œuvres de l'homme. L'incapacité de l'homme de pouvoir faire quoi que ce soit, c'est un don de Dieu. Nous avons un salut qui est né, qui est de Dieu seul. Une grâce souveraine qui vient à l'humanité comme un don libre et précieux de Dieu. Un don que l'homme n'a rien fait pour mériter, n'a rien fait pour produire. Le Seigneur Jésus est la progéniture d'Abraham. La réponse à tous les désirs d'Abraham. L'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham. Le sauveur en qui le monde entier serait béni. Mais ce passage ne se contente pas de nous présenter l'enfant à venir. Il nous dit aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Il est la première personne sauvée par cette promesse de Dieu à Abraham qu'il allait donner un enfant, une postérité. C'est bien sûr Abraham lui-même. Et c'est le deuxième point. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils, la postérité d'Abraham est venue pour sauver. Le verset 6 nous dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et cela nous dit ce qui se passe quand quelqu'un croit dans le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un croit que le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur qui a été promis. Dieu l'accepte comme étant juste à ses yeux. Ce terme « juste » ou « justice » est l'un des mots les plus importants de la Bible. Abraham est la deuxième personne décrite dans la Bible comme étant juste. Le premier était Noé. Noé était en règle avec Dieu. En conséquence, lui et lui seul, avec sa famille, a été autorisé à échapper au jugement de Dieu dans le déluge, en étant protégé dans l'arche. Et cela nous dit que pour être juste aux yeux de Dieu, il faut être approuvé, accepté par Dieu, pour éviter le jugement, la colère de Dieu. C'est un grand besoin, c'est un besoin urgent pour l'humanité, pour chaque personne. La justice est une déclaration non seulement d'innocence, mais aussi de droiture, de justification. Et le verset 6 dit qu'Abraham a été déclaré, considéré comme juste par Dieu. Parce qu'il croyait dans la promesse de Dieu concernant le salut de cet enfant à venir. Le verset 6 emploie ce concept qui est au centre de la foi chrétienne. Il dit que l'Éternel le lui imputa à justice. Le verset ne dit pas qu'Abraham était juste en lui-même. En fait, le récit de la Genèse, le récit biblique, fait tout son possible pour montrer qu'Abraham était un pécheur, je dirais, en pleine activité. Genèse 12, par exemple, on le voit lent à obéir, puis il va dire des mensonges quand il descend en Égypte. Il va jusqu'à offrir sa femme à Pharaon pour sauver sa propre peau. Chapitre 16, on voit Abraham commettre l'adultère avec la servante de sa femme, parce qu'il doutait de la promesse de Dieu. Et la Bible a souvent été critiquée à cause du péché de ses héros. Les opposants au christianisme se moquent du fait que Dieu accepte comme juste un adultère menteur comme Abraham, un meurtrier comme Moïse, ou une combinaison adultère-meurtrier comme le roi David. Abraham n'était pas juste à cause de ses propres mérites. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous, comme modèle. Parce que nous non plus, nous ne sommes pas justes devant Dieu, par nos efforts, par nos mérites. C'est la gloire de la Bible, la gloire de l'Évangile que Dieu offre aux pécheurs, un moyen d'être déclaré juste, d'être considéré juste, par la foi en Jésus-Christ. Et Abraham est l'exemple type du Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit de lui, en Romains 4 par exemple, versets 2 et 3, « Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Le cas d'Abraham est donné pour prouver que notre justice avec Dieu n'est pas basée sur nos œuvres, parce que nos œuvres sont corrompues par le péché. On ne peut se vanter de rien devant Dieu. Et Paul continue, toujours en Romains, au verset 5, il dit que à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Notre est l'expression, Dieu justifie l'impie. Dieu justifie des pécheurs, il déclare, il considère juste des pécheurs qui sont unis à Christ par la foi. Et c'est ce qui donne tant de sens à Noël, qui est au centre de l'histoire. Le Fils de Dieu est né de Marie afin d'être libéré de la corruption du péché, de l'humanité. Il était capable de vivre une vie parfaite de justice. Il a rempli chaque exigence des attentes de Dieu, des demandes de Dieu, chaque seconde, chaque jour, chaque instant. C'était sa propre justice parfaite qu'il a offert à Dieu quand il est allé à la croix. Il est mort à notre place, le juste pour les injustes, offrant sa justice pour nous, prenant sur lui le châtiment que nous méritons. Lorsque l'on confesse nos péchés notre culpabilité quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, qu'on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur. Dieu impute sur lui, sur notre Seigneur Jésus-Christ, notre péché. Et il nous impute sur nous la justice parfaite de Christ. Il met sur notre compte la justice parfaite de Christ. Abraham a cru en Jésus-Christ. Il a cru dans cette postérité promise par Dieu. Et là, Dieu l'a reçu, l'a considéré comme juste. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ tel qu'il nous l'a été, tel qu'il nous a été donné, tel que nous, et nous recevons, comme le dit l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 3. Non, ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Le commentateur écrit, « Du grand livre de ma vie sort mon péché qui est mis à son compte. » Alors sa bonté, sa justice, sa pureté sont mises sur mon compte et en mon nom. Autrement dit, me voici avec le manteau noir de mon péché et je ne peux pas me tenir dans un tel manteau devant Dieu qui est lumière. Ce que Dieu fait est de mettre sur moi le manteau de la justice de Jésus-Christ, sa vie parfaite, sa vie immaculée d'obéissance, sa nature sainte. Dieu me voit en Christ, revêtu de sa justice. Ce verset 6 de Genèse 15 est un des versets importants de la Bible, et on le sait parce qu'il est très souvent cité dans le Nouveau Testament. On a lu Romains chapitre 4, Paul se réfère à la justification d'Abraham. Plus loin, dans ce même chapitre, l'apôtre Paul souligne que la foi d'Abraham consistait à croire que Dieu serait fidèle à sa parole. Romains 4, verset 20, « Abraham fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et cela fait une déclaration importante au sujet de la foi. Nous devons donc croire que Dieu sera fidèle à sa parole. Aussi étonnant que cela puisse paraître, que Dieu puisse justifier des pécheurs comme nous. Mais il promet de le faire. Et il le fait par la foi en Jésus-Christ. Tout comme il semblait étonnant à Abraham que lui et Sarah aient un enfant à leur âge, nous devons prendre Dieu au mot, croire dans la promesse de l'Évangile, qu'il pardonne aux coupables par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul cite ce verset 6 de Genèse 15, encore en Galates 3, verset 6, soulignant que nous sommes sauvés non par nos œuvres, mais comme Abraham, nous sommes sauvés par la foi seule. Et puis il rajoute au verset 9, « Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Et enfin l'apôtre Jacques va citer ce même verset en complétant, en appuyant ce que l'apôtre Paul a enseigné. L'apôtre Paul enseigne que nous devons compter sur la justice qui vient par la foi au lieu d'essayer d'être sauvés par nos œuvres. Jacques nous rappelle que la foi d'Abraham l'a poussé à obéir à Dieu. Ayant été sauvé par la foi en dehors des œuvres, sa foi a continué à faire de bonnes œuvres pour manifester cette nouveauté de vie. C'est dans ce sens que Jacques écrit Jacques 2, versets 22 et 23, « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, « Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Jacques 2, versets 22 et 23. Abraham, bien qu'il était un grand pécheur comme nous, a été justifié devant le Dieu Saint. Abraham crut. Il crut la parole de Dieu. Il avait confiance en ce que Dieu avait promis, à savoir un enfant dans lequel toutes les promesses se réaliseraient. Sa foi a été confirmée au fil du temps. Elle l'a amené à faire confiance à Dieu, à lui obéir. Et par cette foi, il a été accepté par Dieu au moyen de la justice qui lui est parvenue par le Seigneur Jésus-Christ, par la vie et la mort de l'enfant qui est né comme accomplissement de cette promesse. Une autre façon de le dire, de réaliser que le mot dans le verset 6 qui est traduit ici, il eut confiance, c'est le terme qui donne notre mot Amen. Nous disons Amen pour dire oui, c'est vrai. Et ce qu'Abraham a fait, c'est exactement cela quand il a entendu la parole de Dieu. Il a dit Amen à ce que Dieu a promis. En utilisant ce passage pour apprendre la signification de Noël, on a vu que le Seigneur Jésus-Christ est né comme l'enfant de la promesse que Dieu a faite à Abraham, que le Seigneur est venu pour mourir pour nos péchés afin de justifier les pécheurs. C'est ce qui était en jeu dans la promesse de Dieu à Abraham. Alors on n'est pas surpris que le Seigneur ait pris le temps de donner une illustration pour aider Abraham à croire. Verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » N'avoir pas d'enfant pour Abraham était une source de grande honte. Son nom signifiait « père de beaucoup », mais il n'avait pas d'enfant. Imaginez combien de blagues il a dû endurer sur ce sujet. Un homme dans l'ancien Proche-Orient tirait sa fierté, sa dignité des fils qu'il avait engendrés. Abraham n'en avait pas. Il n'avait pas d'orgueil, pas de dignité. Et pourtant, c'était la promesse de la grâce de Dieu qu'Abraham serait exalté exactement comme il a toujours eu honte. Genèse 12, 2 nous dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. » Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et ici, Genèse 15, verset 5, Dieu renouvelle cette promesse avec cette démonstration étonnante. Cette démonstration visuelle. Regarde vers le ciel. Compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham serait amené de la honte à la gloire. Et c'est le troisième point, de la honte à la gloire. Mais c'est aussi l'histoire de Noël. Le Seigneur Jésus-Christ est né dans une humilité encore plus amère qu'Abraham n'a jamais connue. Un pasteur anglais du XVIIe siècle écrit que la seconde personne de la Trinité s'est dépouillée des vêtements de sa gloire et s'est couvert des haillons de notre humanité. Le Seigneur Jésus-Christ, bien que Dieu Tout-Puissant, a pris toutes les infirmités, toute la faiblesse de notre nature humaine, sans péché. Il a marché au milieu de la poussière de la mort. Celui qui pouvait dire « Je suis le pain de vie » a connu la faim dans le désert. Celui qui donne l'eau vive a dit « J'ai soif ». Seigneur Jésus-Christ n'est pas né dans un palais, mais dans une étable. Il n'est pas né dans la capitale de pouvoir et d'influence, mais dans un village rural. Il ne s'est pas couché sur un lit royal, mais dans une mangeoire pour les animaux, et pas vêtu de splendeur, mais enveloppé de haillons. Il est entré dans notre faiblesse, dans notre honte, non seulement pour sympathiser avec nous, mais pour nous conduire vers la gloire. Un auteur écrit « Dieu a revêtu l'humanité pour que nous puissions revêtir la divinité. Il est devenu fils de l'homme pour que nous devenions fils de Dieu. » C'est ce que Dieu a montré à Abraham. Ce qu'il a montré, l'évangile qui nous élève de la honte à la gloire, c'est exactement ce que Dieu a montré au monde entier dans la naissance et la vie du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'explique en Philippiens 2, chapitre, verset 7 et suivant, que le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La naissance du Seigneur Jésus-Christ a été le début de son humiliation, une humiliation qui a atteint son apogée à la croix et à la tombe. Mais le Seigneur l'a ressuscité des morts, il l'a élevé au plus haut. Abraham, confiant dans la promesse de Dieu en Jésus-Christ, mais le cœur brisé par la honte de n'avoir pas de fils, a levé les yeux au ciel. Il a vu cette démonstration, cette présentation de tous les fils qu'il aurait en Jésus-Christ. Des fils qui suivraient son exemple de foi, qui se joindraient à lui dans la glorieuse famille de Dieu. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que tout cela a à nous dire pour notre célébration de Noël cette année? Deux choses, et on va conclure. Premièrement, si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, né dans ce monde comme le don de la grâce de Dieu, alors on trouvera notre justice avec Dieu en lui et en lui seul. Le Seigneur Jésus-Christ est né pour sauver. Il est venu pour vivre la vie que l'on aurait dû vivre, mourir la mort que l'on méritait de connaître. Il nous offre sa propre justice, sa robe parfaite de gloire, de sainteté, afin qu'on puisse se tenir avec lui devant Dieu. Dieu dit à Abraham de regarder les étoiles, de voir tous ces descendants spirituels qui rejoindraient la famille de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si on fait confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour être notre Seigneur, notre Sauveur, alors une de ces étoiles a été allumée pour nous. Le grand impératif de Noël, c'est donc de croire au Seigneur Jésus-Christ, d'être sauvé, d'être réconcilié avec Dieu, d'être considéré juste par la foi dans cet enfant promis dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais une deuxième signification, pour ceux qui ont cru, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont venus à Dieu par la foi en Jésus-Christ, comme le Seigneur Jésus, on peut vivre dans l'humilité, dans la pauvreté, dans la faiblesse. Comme Abraham, tous nos rêves n'ont pas été réalisés. Mais ce n'est que le début d'un salut qui finira dans la gloire. La naissance du Seigneur Jésus-Christ a été un commencement qui mène de la honte à la gloire, de la faiblesse à la force, de la défaite à la victoire, de la condamnation à la justice, au salut. Et par conséquent, si on est considéré juste par la foi en Jésus-Christ, non seulement une de ces étoiles a été allumée pour nous, mais c'est une image de la destinée qui nous attend. Le Seigneur Jésus-Christ dit en Matthieu 13, verset 43, « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Le Seigneur Jésus-Christ est né dans la honte pour nous rencontrer là-bas, mais aussi pour nous conduire avec lui dans la gloire. Et en tant que fils d'Abraham, enfant de la foi, nous entrons, nous devenons témoins de l'Évangile, afin que le monde entier soit béni à travers nous, qui, unis à Christ par la foi, sommes les fils, les enfants d'Abraham. Comme l'ange a dit à Daniel, Daniel 12, verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà une des promesses, une des premières promesses de la venue du Seigneur Jésus-Christ, la promesse que Dieu fait à Abraham, de sa postérité, sa véritable postérité, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, qu'il nous aide à méditer ces choses, et qu'il bénisse sa parole. à nos cœurs. Amen.